Bien, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Je dis retrouver parce que pour moi, c'est un plaisir de retrouver ce magnifique endroit pour vous parler. Mais là, en revanche, c'est une première pour moi cette année de révolte. Et j'ai l'honneur de clore ce grand cycle sur les révoltes qui vous a intéressé, nous a intéressé depuis le mois de septembre, je crois, avec la plus ancienne des révoltes qui nous était donnée à comprendre dans ce grand cycle, la révolte des Ciompi, celle qui a donc embrasé Florence, la grande cité drapière, au temps de l'été le plus chaud de 1378. Et au fond, pour parler de cet événement, pour parler de cette commotion sociale, pour vous expliquer comment cette révolte, on en peut faire l'histoire, avec quelle source, avec quel témoignage, comment on peut la voir chez les témoins se qualifier ou se disqualifier, comment son nom même, la révolte des Ciompi, dit le désir des élites dirigeantes et parlantes et écrivantes à Florence de la disqualifier, puisque Ciompi est un mot qui désigne d'abord une insulte. On n'a pas très bien compris tout de suite ce que ça voulait dire, mais ça veut dire bâtard, ça veut dire fils de pute, ça veut dire simplement que ce jour-là, cet été 1378, c'était les plus pauvres, c'était les plus démunis, c'était les plus humbles de la grande manufacture lainière de Florence qui se sont révoltés, qui ont pris le pouvoir et qui, en juin-juillet 1378, ont provoqué chez ceux qui gouvernaient Florence une grande peur si effrayante que 150 ans plus tard, 200 ans plus tard, ils en parlaient encore, ils en tremblaient encore. Ce tremblement, on peut le lire sous la plume, et je dirais même par la plume, car sa plume tremble à ce moment-là, au moment même où il écrit, on peut le lire dans cette brève notation de Francesco Guicciardini, Guichardin, l'ami de Machiavel, qui au tout début du XVIe siècle écrivait l'histoire de Florence et parlant de la manière dont Machiavel lui-même avait écrit l'histoire de Florence, j'y viendrai à la toute fin parce que c'est, je crois, déterminant, marquait en marge de ce manuscrit, on est au début du XVIe siècle, il ne volait rien, mais brûlait tout. Et cette idée, au fond, que les révoltés sont dans une rage destructrice qui les fait, qui leur fait oublier l'envie, la convoitise, pour, au fond, les faire simplement aspirer à la destruction, c'est bien cela, au fond, qui a effrayé les classes dirigeantes florentines. C'est bien cela aussi qui a ensuite, bien plus tard, exalté les historiens marxistes, puis révolutionnaires du XXe siècle. Et lorsque on parle de la révolte des Ciompi, évidemment, on a grand-peine à distinguer, mais devrait-on vraiment le faire, l'histoire du mythe, la chronique de la mémoire, comment cet événement qui a pu être qualifié par l'historienne Simone Veil, là encore j'y reviendrai, en 1934, de révolte prolétarienne la plus pure de l'histoire. Comment, au fond, cette révolte ouvrière, car c'en est une, a pu servir de ressource, de légitimation, de mobilisation, d'encouragement à beaucoup de révoltes successives et postérieures. Toute la difficulté, au fond, pour les historiennes et les historiens de métier, étant de sortir de cette tenaille entre les sources qui insultent et les sources qui exaltent, entre l'injure lancée à la face des révoltés Ciompi, bâtards, et évidemment la volonté de ces mêmes révoltés de retourner le stigmate, comme dit Erving Goffman, et d'assumer pleinement, crânement, ce qui est toute l'histoire des révoltes, le geste ou le mot de la disqualification, de le prendre pour soi et pour se qualifier soi-même de ce dont on est disqualifié. Finalement, cette question-là, la question de la rationalité des révoltes, c'est tout cela que je voudrais comprendre avec vous. Mais je le répète, tout est affaire de source. Et pour entrer pleinement dans la matière, je voudrais commencer simplement par vous lire quelques extraits d'un livre de mémoire et souvenirs de Pagolo di Ser Guido, Cimatore, ainsi signe-t-il. Cimatore, ça veut dire tondeur d'étoffe laine. J'en lis quelques extraits, je vous le présente après. Le 15 juin 1378, on cria plusieurs fois « Viva il popolo » au palais des prieurs, et on ferma les boutiques, et ce, jusqu'au vendredi soir. Puis le mardi, une rumeur se leva, et le popolo s'arma, et tous les arts accoururent sur la place des prieurs, avec leurs gonfalons, leurs bannières, leurs drapeaux, criant « Viva il popolo ». À 13 heures, ceux de l'art des fourreurs de verre se rendirent avec leurs gonfalons à la maison de Messer Lapo da Castiglionchio, pillant et brûlant chez lui et ses consorts. Et ils allèrent à la maison de Mastino, et ils pillèrent et brûlèrent. Puis chez Carlo, et ils pillèrent et brûlèrent. Puis ils allèrent à la maison Albizzi, et brûlèrent chez Pippo di Filippo, et les fils de Pippo d'Antonio, et les fils d'Alberto d'Antonio di Jacopo d'Alesso, avec certains de leurs consorts, et ils brûlèrent chez Migliore Guadagni, et ils brûlèrent chez Jacopo et Simone et Sandro de Pazzi, et puis ils brûlèrent chez les Bondelmonte, et puis ils allèrent forcer les Stinche, c'est-à-dire les prisons communales. Ils vont délivrer les prisonniers, puis ils brûlèrent chez Niccolo et Tommaso Soderini, puis pillèrent Messer Filippo Corsini, puis chez Boniauto Serragli et son frère, et Messer Coppo da San Friano, ils le pillèrent, puis brûlèrent chez Messer Ristoro Canigliani, puis pillèrent chez les Agnolo, puis voulurent forcer la Camera della Comune, défendue par l'art des charcutiers, puis ils s'arrêtèrent le soir. J'ai voulu aller jusqu'au bout de ce texte, au fond, répétitif, pour tenter d'aller au plus près, avant de mettre mes mots d'historien, pour expliquer, pour commenter sur, je dirais, la logique même de la révolte. Qui parle ? Pagolo di Ser Guido est l'auteur de pratiquement la seule source contemporaine écrite par un représentant des Minuti, du Popolo Minuto. Ce n'est pas un des Ciompi lui-même, mais ce n'est pas non plus un membre de l'oligarchie ni un professionnel de l'écriture. Vous l'avez entendu lorsque j'ai donné lecture de ce texte, et puis, poi, il est comme, d'une certaine manière, emporté par la logique de la foule. Vous entendez là quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la belle écriture et qui pourtant écrit. Et nous sommes là, nous en sommes là, dans cette ville de Florence qui représente, dans cette seconde moitié du XIVe siècle, un des exemples de villes européennes les plus densément et intensément alphabétisées, où on estime qu'environ un tiers d'une classe d'âge masculine a été aux petites écoles, ce qui permet au fond d'avoir une société qui est largement littérarisée, je veux dire où l'écrit a évidemment débordé. Et c'est de ce débord et de cette capacité de débordement, voire de débordement incontrôlé, à déborder donc les cadres de l'élite. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le livre de mémoire et de souvenirs de Pagolo di Ser Guido Cimatore provient d'un milieu qui est un milieu d'un petit artisan. Il n'a pas participé lui-même à la révolte. On voit qu'il est dans un rapport d'extériorité. Il est témoin, il décrit ce qui se passe, mais sa neutralité même en fait une exception. Ils ne disent pas « c'est des gueux, ils ont été ignobles », ils disent juste « ils ont pillé et brûlé ». Ils pillent et ils brûlent, ils pillent et ils brûlent. Comme si, au fond, ils n'avaient pas d'autre programme que cela. N'avaient-ils pas d'autre programme que cela? C'est la question, effectivement, qu'il faut poser. Nous allons poser toutes ces questions, mais pour l'instant, je voudrais rester au ras de l'événement et au ras du son que l'on entend, au ras de ce récit qui hoquette, qui effectivement n'est pas structuré comme une narration. On sent bien que au moins il ne les insulte pas parce qu'il est sinon des émeutiers, du moins du groupe social dans lequel les émeutiers se retrouvent et se rassemblent. On est dans une ville, Florence, qui a 50 000 habitants à ce moment-là, la moitié de ce qu'elle avait avant la peste noire, qui a été véritablement j'allais dire décimé, c'est absurde, puisque décimé, comme vous le savez, ça veut dire un sur dix. Là, c'est sans doute entre la moitié et les deux tiers de la population urbaine qui est tuée par la peste et qui se remet effectivement péniblement de cette terrible épreuve et qui, malgré tout, présente des structures sociales et politiques que je vais décrire dans un instant, qui tiennent encore. Et ces structures, c'est le rapport à l'écrit, et c'est la capacité, effectivement, de ces élites, et au-delà du popolo, et y compris du popolo minuto, d'écrire ses souvenirs. C'est-à-dire, au fond, mémoire et souvenirs, les ricordens, c'est au début du XIVe siècle, c'était encore les grands marchands et seulement les grands marchands qui pouvaient écrire les souvenirs. Et là, on a effectivement un tondeur d'étoffe de laine qui peut écrire. Pourquoi ? Parce que son père était un petit notaire ou un maître d'école, on ne sait pas bien, et c'est très probablement grâce à lui qu'il a appris à écrire. Si son père était notaire et, maître d'école et que lui est tondeur d'étoffe de laine, ça veut dire qu'il a dégringolé. Il a en tout cas, il n'est pas au niveau social qu'occupait son père. Il a raté une marche, laquelle il faudra se la poser. En tout cas, il a eu quelques responsabilités publiques pendant le gouvernement des arts mineurs. Bref, un petit artisan pauvre qui habite l'Oltrarno, de l'autre côté de l'Arno, qui est locataire, qui n'est pas propriétaire, un petit artisan pauvre qui sait écrire, mais qui n'en a guère l'habitude, qui effectivement a cette confusion chronologique qui l'empêche de poser, disposer ses souvenirs de manière stable dans un temps mathématisé. Il est dans la succession et puis cette sorte de hoquet qui scande la mémoire des laboratoresses. Et vous voyez comment sa situation d'énonciation témoigne à la fois de la diffusion des pratiques d'écriture qui étaient au XIVe siècle caractéristiques de la bourgeoisie d'affaires florentine, comment au fond il parle des Ciompi sans véritablement parler au nom des Ciompi, mais comment d'une certaine manière, et ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant et que je trouve un peu triste au fond, c'est que il y a une indétermination, il, mais qui ça, il, les seuls qui ont droit à être nommés sont les nobles qui sont pillés et dont les biens, les maisons sont brûlés. On est là dans une configuration que Christiane Clapiche-Zuber, dans un beau livre qui s'appelle « La maison et le nom » a bien défini, c'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière une prétention à l'appréhension de sa propre vie, avoir une maison, avoir un nom qui est très inégalement réparti, et c'est contre cela aussi que l'on se révolte, cette fragilité ontologique, ce qui fait qu'avoir, au fond, quelqu'un qui regarde les événements sans apparemment les comprendre, qui décrit des scènes de pillage et d'incendie sans dire pourquoi il pille et il brûle, qui n'a pas apparemment d'antipathie, mais qui ne déclare pas non plus une explication ou une analyse ou une intelligibilité du programme politique des Ciompi. Pourquoi se révolte-t-il? Qu'est-ce que c'est que, pourquoi crie-t-il vive le popolo? Quel est en fait le but de la révolte? Tout cela effectivement est troublant et pose au fond la question que Pierre Bourdieu décrit, c'est-à-dire au fond est-ce que les dominés peuvent avoir la science de leur domination, est-ce qu'ils sont à ce point dominés qu'ils intègrent, y compris lorsqu'ils ont accès à l'expression écrite, au fond, les mécanismes de domination. À lire Pagolo di Ser Guido, au fond, on en a l'impression. D'ailleurs, lorsqu'il raconte la répression du complot de décembre 1378, il raconte que 12 hommes ont été décapités, je le cite, parmi lesquels Messer Ghirigoro Tornaquinci et Pippo de Rossi, les autres étaient des pauvres. Donc là, on a encore une fois cette inégale répartition de la dénomination. On ne nomme que les riches, les autres étaient des pauvres, mais ils sont tout de même décapité. Le 15 juin 1378, on cria plusieurs fois « Viva il popolo » au palais des prieurs. C'est en effet à ce moment-là que commence la révolte des Ciompi en juin 1378, à un moment clé où Florence est en guerre contre Rome et que cette guerre s'appelle la guerre des Huit Saints et que c'est bien, au fond, cette articulation entre un climat très incertain du point de vue international et un mouvement social dont je vais essayer de décrire les mécanismes qui est à ce moment-là à l'œuvre. Il y a une opposition effectivement entre la magistrature chargée de prendre les mesures qui concernent la guerre des 800, qu'on appelle justement les huit de la guerre, et le capitaine du parti au pouvoir, qui est le parti Guelf, qui se livre à une véritable bataille pour la prédominance dans la cité, qui précipite en fait la révolte. Donc on a déjà, comme dans toute révolte médiévale, cette première séquence qui s'observe très bien. Premièrement, un contexte d'incertitude et de danger parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a effectivement, disons, la possibilité, la potentialité d'une émotion. Deuxièmement, une société politique clivée, donc un conflit à l'intérieur même de l'élite dirigeante, et donc un des deux partis qui tente de manipuler le popolo, ou même la frange la plus tourmentée ou mouvementée du popolo, le popolo minuto, et qui se fait un temps débordé. Bon. Donc ça, c'est, je dirais, le scénario classique de la révolte médiévale, et en particulier de ces révoltes du XIVe siècle, puisqu'il y en a d'autres dans ces années 1370-1380, qu'on peut effectivement faire une histoire européenne de ces commotions urbaines. Il y en a à Paris, la révolte des Maillotins, il y en a à Barcelone, il y a évidemment Londres la révolte des travailleurs, et tout cela, effectivement, les historiens des révoltes, et notamment dans les années 60, on pense à un classique de l'historiographie qui s'appelle « Ongle bleu, Jacques et Tiompi » de Philippe Wolff et Michel Molla, appelle effectivement le scénario type de la révolte médiévale du XIVe siècle, qui est pas encore une révolte fiscale, hein, contrairement à ce dont on a pu vous parler sans doute pour l'Ancien Régime, mais au fond, en situation de guerre, un conflit à l'intérieur de la classe dirigeante qui tourne mal, qui se laisse un temps déborder par la foule, la plèbe qu'elle a cru pouvoir simplement manipuler. Tel est effectivement le tempo de la révolte des Ciompi. L'émeute du 22 juin 1378 met au pouvoir, j'y reviendrai tout à l'heure, un homme très important qui s'appelle Salvestro de Medici, qui est un Médicis, ce qui aura évidemment une grande importance dans l'histoire de Florence par la suite. Et donc le popolo minuto, donc, qui a pris le pouvoir, clairement qui a occupé les lieux, mais se donne comme champion quelqu'un qui n'est pas sorti de ses rangs, mais qui est au contraire un très riche marchand, faisant partie de la famille des Médicis, l'adouble chevalier du popolo minuto. Et ce premier temps, c'est celui effectivement où les Médicis, ou en tout cas l'un d'entre eux, Salvestro de Medici, peut croire encore contrôler la situation, et qu'il y a ensuite un débordement, toujours ce double temps du tempo révolutionnaire. Il y a un moment, disons, de révolution contrôlée, puis un moment de révolution qui déborde, toujours avec la guerre à l'horizon, les 800, 22 juillet, nouvelle émeute qui aboutit à l'élection par acclamation d'un leader plus radical que Salvestro de Medici, qui s'appelle Michele Di Lando, qui lui est appuyé par les arts mineurs, par donc la faction véritablement organisée du Popolo Minuto, et donc qui propose un programme plus radical d'occupation du pouvoir. Jusque-là, on est simplement dans une pression au fond de la rue. Ensuite, à partir du 22 juillet, on occupe les palais publics, on occupe les lieux de pouvoir, et ceux qui l'occupent s'appuient plus directement sur des forces qui sont des forces du Popolo Minuto. Et c'est là où, évidemment, la réaction s'enchaîne. Le 31 août, Michele Di Lando et le Popolo Minuto est battu militairement. Donc, la prise de pouvoir des Ciompi à Florence est 22 juillet, 31 août 1378. Donc, ça passe. Voilà, ils ont pris pouvoir pendant un peu plus d'un mois. Et ensuite, après, ça bat sur eux une impitoyable répression. Et au fond, comme pour toute réforme, pour toute révolte, on ne connaît vraiment de cette révolte que ce que les archives de la répression veulent bien en dire. Dès lors, qu'est-ce que on peut dire de cette révolte? Comment en trouver la rationalité? Comment tenter de rendre raison de ces logiques spatiales, sociales, insurrectionnelles? Si on suit toujours notre Pagolo di Ser Guido Cimatore, eh bien, pour essayer de comprendre ce qui les meut, ce qui les anime, ce qui les meut au sens propre, c'est-à-dire ce qui les fait sortir de chez eux, ce qui en fait une émotion populaire, une commotion, c'est-à-dire ce qui les met en mouvement, littéralement, c'est plusieurs choses. C'est d'abord des cris. Viva il popolo! Viva il popolo minuto! Vive les arts mineurs! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un gouvernement qui est un gouvernement urbain, qui est organisé par, je dirais, l'équilibre des pouvoirs entre les arts majeurs et les arts mineurs. Les arts majeurs et les arts mineurs sont effectivement ce qu'on appellera à partir du XVIIIe siècle des corporations, c'est-à-dire la mise en ordre, l'organisation du travail et du travail industriel. Et effectivement, les arts majeurs, c'est la soie, et les arts mineurs, c'est par exemple la laine. Bon. Donc, en fonction, je dirais, de la dignité de l'objet travaillé, mais aussi de la dignité du statut du travailleur, on est dans les arts majeurs et les arts mineurs. Et tout l'équilibre, en fait, à Florence, c'est que, d'une certaine manière, ce sont évidemment les arts majeurs qui gouvernent, sauf quand la pression des arts mineurs est trop forte, et alors, là, on organise, d'une certaine manière, un équilibre du pouvoir en élargissant la base sociale du régime. Ça, c'est vieux comme le XIIIe siècle. Donc, crier « Viva il popolo minuto, vive les arts mineurs », ça veut dire réclamer davantage de considération dans un système qui organise le partage des pouvoirs. Soyons attentifs aux cris du peuple, qu'est-ce qu'ils crient, quel est leur slogan. Plus loin, effectivement, Pagolo disser Guido Cimatore dit que le 20e du 10 mois de juillet, les prieurs prirent trois pauvres hommes et voulurent leur couper la tête sur la place. Une rumeur se leva et l'on accourait sur la place, criant « Viva il popolo minuto » et « L'arti ». Ça veut dire effectivement les arts, sous-entendu mineurs. Plus tard, dans le mois de juillet, à partir du moment où Michele Di Lando a un programme économique qui n'est pas simplement, au fond, la volonté de partager le pouvoir, mais de faire quelque chose de ce pouvoir, quel est le slogan que l'on entend à Florence ? On entend à Florence un slogan plus étonnant, et en particulier si vous avez en tête justement les révoltes antifiscales de l'Ancien Régime, c'est « viva il popolo minuto, viva les arti », et aussi « vive le cadastre, mort à la gabelle ». Alors là, ça veut dire que c'est déjà plus intéressant parce que cela intervient dans les choix fiscaux. La gabelle, c'est l'impôt indirect. L'impôt indirect, c'est effectivement l'impôt sur les dépenses ou sur sur les ventes ou les dépenses, c'est-à-dire effectivement là en l'occurrence un pourcentage sur le sel, sur le vin, sur tout ce dont on ne peut se passer. Le catasto, c'est effectivement l'instrument fiscal qui permet d'évaluer les fortunes et de faire reposer l'impôt sur une évaluation des fortunes. C'est un impôt qui est progressif. C'est un impôt qui est progressif sur direct sur les fortunes mobilières et immobilières. Voilà des révoltés qui crient vive l'impôt. Mais pas n'importe quel impôt. L'impôt sur le revenu, nous dirions aujourd'hui. Voilà des révoltés qui, d'une certaine manière, ont un rapport à, disons, aux enjeux sociaux de la fiscalité qui est apparemment plus éclairé que celui de bien des protestations contemporaines. C'est-à-dire qu'ils savent, ils ont compris que l'impôt direct est plus juste socialement que l'impôt indirect, qui lui-même est indolore, mais qui frappe évidemment de la même manière des fortunes inégales, donc qui est inéquitable. Ça prouve qu'il y a là une culture politique. Vous voyez, j'avance pas à pas. Je suis en compagnie de sources qui ne font que les insulter, ou au mieux, comme mon chroniqueur, être neutre avec eux. Ça veut dire quand même que si on écoute ce qu'ils crient, il y a là un programme qui témoigne d'une conscience politique et aussi d'une compréhension des enjeux sociaux, des choix fiscaux. Ce qui suppose effectivement quand même une grande maturité. Et puis, il faut poursuivre, effectivement, il y a des logiques de rationalité pratique. Un programme politique, ce n'est pas nécessairement ce qu'on crie, ce qu'on voit ou ce qu'on prévoit, c'est aussi ce qu'on fait. Donc, ils pillent, ils brûlent, très bien. Mais qui, mais que font-ils et comment et dans quel ordre? Et quelle est la logique spatiale? Si je reprends mon texte, je vois au fond que le mouvement insurrectionnel, il est entièrement, je dirais, scandé, marqué par des signes, des bannières, des chapeaux, des insignes, tout ce qui va effectivement nous permettre de nous reconnaître. Puis, une autre matinée, une brigade d'étrangers coiffés de chapeaux en terre à San Spirito ont sorti le gonfalon un peu plus loin et ont puis le dimanche ont pris les armes et ont sorti les bannières. Il y a effectivement dans cette dynamique spatiale de l'insurrection un aspect rituel à comprendre. Je m'appuie ici sur un historien américain qui s'appelle Richard Trexler, qui a étudié le rituel dans la vie politique à Florence dans les années 1970. Et c'est assez intéressant parce que son livre, qui est une thèse, dit qu'au fond, lui-même a participé à des mouvements de protestation et notamment de manifestations contre la guerre du Vietnam, et qu'il sait très bien qu'une manifestation ne fait pas que, au fond, exprimer une solidarité, mais la constitue, mais au fond la cristallise, et qu'il y a une logique de la foule qu'on doit comprendre symboliquement, que déployer des bannières, que lancer des slogans, ça a une logique. Et il a effectivement, dans un article qui s'appelle « Follow the flag »,« Suivez le drapeau », montré comment, si vous voulez comprendre quelque chose l'insurrection des Ciompi, le tumulte des Ciompi, il faut voir comment il manipule les signes du pouvoir. Ben, on voit effectivement très bien comment tout l'enjeu de la possession des bannières, des chapeaux, des uniformes, qui sont des éléments visuels qui jouent le double rôle de catalyseur d'individualité et de légitimation, disons, de l'action du groupe. Tous les mouvements effectivement des Ciompi sont toujours convergents, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils habitent le plus souvent de l'autre côté du fleuve, l'Oltrarno, et ils habitent dans des quartiers qui sont des quartiers lointains où ils sont le plus souvent locataires. Donc on est effectivement dans une logique qui est déjà une logique de ségrégation urbaine. On n'est pas du tout, eux-mêmes n'habitent pas dans la Florence que vous, en tant que moi, en tant que touriste, on peut aller visiter aujourd'hui. Ils habitent plus loin. Et ils viennent effectivement prendre les lieux avant de prendre le pouvoir. Et pour prendre les lieux, ils doivent s'organiser. Ils s'organisent effectivement visuellement, il faut suivre le drapeau, mais pour s'organiser, pour se regrouper, pour coordonner des actions, il faut davantage que des signes visuels, il faut aussi des signes sonores. Et là, on rentre dans la question de la mobilisation par les cloches. Et Richard Trexler a montré qu'il y a toute une géographie campanaire, toute une guerre des cloches qui explique, justifie et exprime la révolte. Dans le chef d'accusation des leaders des Ciompi, une fois consommée la défaite du 31 août et lorsque, au mois de septembre, commence à s'abattre impitoyablement la répression sur eux, on insiste sur le fait qu'ils ont fait sonner les cloches des églises périphériques pour se rassembler, donc créant effectivement des points de rassemblement aux marges de la ville, et ensuite organiser de manière coordonnée leur mouvement vers le centre. Voilà. Donc ce mouvement qui est centripète, ce mouvement qui va vers le cœur du pouvoir, il se règle avec effectivement la géographie campanaire. Et les Ciompi, au fond, ont détourné le rituel campanaire où chaque cloche périphérique devait être réglée sur le son de la grosse cloche de la tour du palais des prieurs. C'est évidemment le pouvoir central qui donne le « là », qui donne la mesure du temps, qui donne la cadence campanaire. Et tous les autres doivent s'organiser en fonction de ce tempo initial. Là, d'une certaine manière, ils ont inversé le rituel, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire sonner les cloches en banlieue, dans la périphérie, pour fondre sur le palais du prieur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en décembre 1378, celui qui va payer le plus cher, celui qui va être torturé de manière ignoble, attaché à une chaîne dans une cage, suspendu pendant des jours et des jours à souffrir et à agonir, je vous passe les détails, c'est celui qui a fait sonner la cloche de San Lorenzo parce que, au fond, il a, c'est-à-dire qui a fait sonner la cloche de l'église centrale parce que, au fond, il a commis le sacrilège qui est de régler la cloche centrale sur le son de la cloche périphérique et non l'inverse. Donc, au fond, comprendre la logique des Ciompi, c'est aussi simplement les suivre, entendre leur slogan, suivre le son des cloches, suivre les couleurs des drapeaux. Mais on peut aussi mieux comprendre simplement en utilisant ces archives de la répression et en les utilisant comme source, effectivement, pour une histoire sérielle et essayer de reconstituer qui y sont, avec évidemment bien des prudences, puisque la géographie de la répression n'est pas nécessairement la même que celle de l'action. Les juges qui répriment ne sont pas des sociologues. Ils ne cherchent pas à nous faire comprendre, à nous, les historiennes et les historiens du futur, qui étaient les Ciompi. Ils cherchent à faire des exemples. Enfin, quand même, on a là des sources de la répression qui nous permettent de faire une sociologie de l'émeute. C'est ce à quoi s'est attaché un historien qui a écrit le livre majeur sur la révolte des Ciompi, qui s'appelle Sandro Stella. Alessandro Stella, dans une thèse dans la fin des années 90, qui s'appelle La révolte des Ciompi, les hommes, les lieux, le travail. Les lieux, c'est très important, effectivement, de voir qui sont en gros les banlieusards. Et les hommes, pour les saisir, eh bien, on doit comprendre, effectivement, le mode de travail. Le mode de travail, c'est, je l'ai dit, je l'ai répété, là, dans une ville qui est une ville dont Florence, qui est la première ville de l'industrie du drap, de laine en Italie et probablement en Europe, et qui a développé, au fond, sur un mode industriel, cette activité. Alors, c'est paradoxal, puisque je viens de vous parler de la structure des arts, art majeur, art mineur. Effectivement, c'est comme ça qu'est gouvernée Florence. Mais ce n'est pas comme ça qu'est réellement que fonctionne l'économie. Et là, on est dans une situation proprement révolutionnaire, où il y a une inadéquation entre comment est gouvernée la cité et comment, en fait, fonctionne l'économie. Pourquoi ? Parce que la production textile est, Moyen-Âge, la première des activités urbaines, la plus précoce à être strictement encadrée par la réglementation corporative, mais elle est également, sans doute, la première à s'en affranchir. Pour le comprendre, il faut savoir que la production du drap de laine, dont les Ciompi sont tous des ouvriers, ils sont tous des ouvriers de la laine, eh bien, obéi à tout un cycle de production du drap en fonction de trois grands types d'opérations. La première, le battage, le peignage, le filage, consistant à préparer le fil, et dans ce cas-là, ça peut se faire, ça doit se faire dans des entrepôts avec de la main-d'œuvre très peu qualifiée, déballage, tri, premier lavage de la matière première, etc. Ces opérations à ingrates nécessitent une abondance de main-d'œuvre peu qualifiée, sont effectuées dans l'atelier du drapier, le marchand lainier, que l'on nomme en Toscane la bottega, et une fois que la laine est préparée, elle quitte alors la ville pour le contado, où elle est placée entre les mains des fileuses sous la surveillance du facteur. Et le filage, ça constitue en fait, un travail d'appoint pour les communautés rurales, on dirait aujourd'hui proto-industriel. Et le troisième stade du processus de production est constitué par les opérations d'après, lavage, foulage, qui nécessite là encore de grands investissements industriels, notamment pour les moulins à fouler, qui est un travail pénible effectué par une main-d'œuvre peu qualifiée, mal rétribuée, qui suscite un véritable prolétariat urbain. Et au fond, la seule opération véritablement artisanale du procès qui en procès de production qui aura duré entre le ballot de laine et le drap chez le marchand, qui aura duré un mois et demi à deux mois, et qui aura permis de passer entre différentes mains, des plus expertes aux moins qualifiées, des mains féminines, des mains masculines, des enfants, des hommes. Eh bien, tout cela, au fond, le seul moment véritablement artisanal, c'est celui, effectivement, du métier à tisser, ou là, qui est, effectivement, qui est dans les mains d'artisans, qui sont artisans parce qu'ils possèdent leurs moyens de production, le métier à tisser. Mais tous les autres ne possèdent pas leurs moyens de production. Et effectivement, en analyse, disons, simplement marxiste, un ouvrier qui ne possède pas son outil de production, on appelle ça un prolétaire. Et quand le travail est concentré et mécanisé, comme dans les grands ateliers de foulon, où on sait qu'il peut, il peut y avoir plusieurs centaines de personnes, alors on n'a aucun intérêt à parler d'artisanat médiéval. En fait, c'est une industrie. Ce sont des usines. Donc, ce qui est très important, c'est de considérer que ce système, le système, et c'est cela, effectivement, qui craque en 1378, le système, il se donne encore comme artisanal, il est encore réglé comme si, au fond, il y avait des corporations. Mais, en fait, ça déborde de beaucoup, justement, ce cadre réglé du travail médiéval, et on est dans une situation qui est déjà proto-industrielle, voire industrielle. Et c'est cela, évidemment, qui constitue, je dirais, la grande contradiction du système. Dans la Florence du XIVe siècle, le travail des lavoranti rassemble dans la bottega du lanaiolo, c'est-à-dire du marchand drapier de laine, elle n'obéit absolument pas aux régulations de la structure des métiers. Elle est déjà réglée par le temps des marchands, comme dirait Jacques Le Goff, c'est-à-dire qu'elle est contrainte par l'horloge mécanique qui, à parts égales, scande le temps travail, impose un nouveau rythme urbain, contribue à la rationalisation du temps de travail. Et l'indice le plus sûr de cette réalité nouvelle que les historiens du Moyen-Âge ont pendant très longtemps n'ont pas voulu voir et que Sandro Stella révèle, une révolte, c'est ça. Ça donne à voir d'un coup ce qu'on ne voulait pas voir. Et même les historiens du Moyen-Âge qui idéalisent un Moyen-Âge des métiers, je pense que dans la plupart de vos manuels scolaires ou de ceux de vos enfants ou petits-enfants, il y a encore l'artisanat médiéval, les artisans. Donc ce qu'on ne voulait pas voir, c'est que, au fond, on est déjà, depuis la fin du XIIIe siècle, et sûrement le XIVe, en Flandre, en Italie, dans une réalité industrielle. Et donc, où il peut y avoir effectivement des révoltes ouvrières, voire prolétariennes. Là, l'indice le plus sûr d'une situation industrielle, pour nous, nous qui pouvons étudier le XIXe siècle, c'est le travail des enfants. Or, effectivement, comme on sait qu'une bonne partie du travail dans les villes drapières s'effectue à domicile, le bobinage de la soie, c'est l'activité féminine par excellence qui est propice à la contribution laborieuse des fillettes, mais on trouve aussi de nombreux garçons, voire des tout petits garçons, qui effectivement travaillent à la fois comme factotums pour transporter les ballots, etc., ou pour aller sous les métiers à tout tisser, ce qui fait qu'au début du XVe siècle, donc après la révolte des Ciompi, un historien comme Franceschi estime que les enfants, Fancioli, c'est-à-dire les enfants au sens florentin du XVe siècle, ça veut dire de 5 à 15 ans, les enfants représentent 30% de la main-d'œuvre salariée. Donc, ça veut dire effectivement que cette réalité que l'on ne veut, que l'on veut croire effectivement seulement, je dirais, celle des de l'industrialisation du XIXe siècle, elle existe déjà. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que, au fond, cette révolte des Ciompi, est-ce que ce n'est pas tout simplement, effectivement, une révolte ouvrière, une des premières révoltes ouvrières de l'histoire. Et alors, Simone Veil, la philosophe, aurait raison dans son article de 1934, dans un journal socialiste, de dire, voilà, c'est la révolte prolétarienne la plus pure. Pour le comprendre, il faut faire une dernière opération historiographique, qui est de comprendre effectivement le moment de la révolte. Parce que ce que, ultimement, ce qui dit le plus, ce qui dit le mieux, la portée de la révolte, c'est la chronologie, c'est le moment où elle se déclenche. Est-ce qu'il y a une conjoncture économique propre à l'explosion révolutionnaire ? C'était la grande question, au fond, de l'histoire des prix et des salaires. L'histoire des prix et des salaires telle que Ernest Labrousse l'avait rêvé dans une sorte de projet d'histoire sérielle. Ernest Labrousse est le patron de l'histoire économique et sociale dans la France d'après-guerre. Et puis, il y a un article très important qui est paru en 1949, qui s'appelle 1848, 1830, 1789. Vous voyez dans quel ordre il les met, c'est-à-dire de manière régressive, point, comment naissent les révolutions. 1848, 1830, 1789, comment naissent les révolutions. Ernest Labrousse avait effectivement l'ambition d'écrire, et en fait pour les prévoir, les contextes proprement révolutionnaires. Et dans les trois cas, il démontrait, en analysant les prix et les salaires, que les révolutions naissent au moment où, au fond, un mouvement continu de trend positif d'amélioration des conditions de vie se trouvait contrarié. Donc, ce n'est pas quand ça va de plus en plus mal qu'on se révolte, c'est quand ça va un peu moins bien dans un mouvement où, depuis longtemps, ça va de mieux en mieux. Et c'est ça qui crée la frustration, étant entendu que ce ne sont pas les plus pauvres, jamais les plus pauvres, jamais les plus démunis, qui se révolte. Alors, il y a un grand historien qui, au début des années 80, a fait une immense enquête, ce que permet effectivement l'extraordinaire capacité florentine de produire des archives et de documenter, y compris d'ailleurs par la répression des révoltes, les situations sociales, une immense enquête sur les prix et les salaires à Florence au XIIIe et XIVe siècle. C'est un historien qui s'appelle Charles de la Roncière et sa thèse s'appelle « Prix et salaires à Florence au XIVe siècle, 1280-1380 ». C'est-à-dire qu'il cherche à comprendre le siècle d'avant la révolte des Ciompi et à comprendre la conjoncture économique des Ciompi. Il décrit une évolution reconstituant le mouvement des prix, qui est affecté par une hausse continue de l'ordre de 150 à 400% dans les années 1320-1380, et aussi des salaires nominaux, et il construit ainsi, un indice qui est une sorte de pouvoir d'achat prenant un budget type. C'est-à-dire, le budget type, c'est ce qui vous permet de vivre, ce qui vous permet de vous loger, de vous nourrir et de vous vêtir. Voilà. Donc, quand vous êtes au-dessus du budget type, vous pouvez faire autre chose, c'est-à-dire éduquer vos enfants, par exemple, ou participer à la société de consommation. Quand vous êtes en dessous du budget type, ça va mal. En 1378, sur 10 maçons célibataires, 9 gagnent plus du double du budget type. Donc, ça veut dire qu'ils ont une aisance. Mais dès lors, effectivement, qu'ils se marient et qu'ils ont des enfants, alors là, ça se dégrade, évidemment. On peut décrire ça très simplement. En 1378, un maçon marié avec 3 enfants, ce qui suppose déjà qu'on a quand même contrôlé les naissances, et à 77% du budget type. Donc, il a les 3/4 de ce qu'il faudrait pour vêtir, loger, nourrir tout le monde. Cela dit, à certains moments, ça a pu être bien pire. 75% du budget type, c'est l'indigence. En 1340, il était à 28% du budget type. C'est la misère. C'est l'endettement. Et en 1347, il était à 17% du budget type. Et là, c'est la mort. Et la mort, c'est évidemment la mort, la peste noire. Et donc, conjoncture économique des Ciompi, c'est que, d'une certaine manière, depuis 1347-48, ceux qui ont survécu à l'épidémie vivent plutôt mieux et continuellement mieux, ne serait-ce que parce que tellement sont morts que, d'une certaine manière, les salaires ont beaucoup augmenté. Les salaires ont beaucoup augmenté parce que ceux qui sont survivants sont rares, que la main-d'œuvre est rare, donc elle est plutôt plus chère. Donc on a dit effectivement que la seconde moitié du XIVe siècle était l'âge d'or du salariat, parce que d'une certaine manière, les salaires, quand même, malgré tout, et précisément quand on est dans une situation industrielle qui n'est plus réglée par les corporations, elles réagissent à l'offre et à la demande, mais que cette conjoncture s'inverse à partir des années 1375-1376. Donc, on est exactement dans la bonne conjoncture, qui est la conjoncture révolutionnaire, qui consiste au fond à créer une frustration chez des gens qui ont la mémoire, au fond, de l'indigence, de la misère, et voire de la mort, simplement, et donc qui sont habitués depuis une génération à faire des projets, on va dire, à participer de cette société et qui s'en trouve brutalement privé. Et c'est ça qui est très intéressant sur la révolte des Tiompi. C'est ça, effectivement, qui permet de comprendre, au fond, quelle était leur... quelle était la logique. Un mot de conclusion pour effectivement dire sur la mémoire. J'ai commencé par Guicciardini, par Guichardin. Je voudrais achever par Machiavel. Je l'ai dit, le premier des leaders des Tiompi, le leader, on va dire, que Simone Veil appelait social-démocrate, c'est-à-dire celui qui est justement dans le issu de la, disons, de l'oligarchie, mais prenant le parti du peuple, c'est Salvestro de Medici. Et effectivement, à ce moment-là, le fait qu'un des Médicis ait pris le parti du peuple va leur assurer une terrible exil et une ils se sont compromis par la révolte des Tiompi pendant effectivement toute la fin du XIVe siècle et une bonne partie, le premier tiers du XVe siècle, et ce d'autant plus que, évidemment, après la révolte des Tiompi, ce sont les Albizzi, un des noms que j'ai cités tout à l'heure, ceux qui tout de suite sont ciblés par les émeutiers, qui prennent le pouvoir, qui font un tour de vis fiscal et oligarchique terrible, et c'est le gouvernement des arts majeurs, et donc effectivement c'est une régression sociale terrible. Les Albizzi sont les ennemis acharnés des Médicis, qui ne reprendront le pouvoir que dans les années 1420, et qui, à ce moment-là, vont faire valoir le fait qu'ils ont toujours été des amis du peuple. Donc, c'est très important, ce moment, effectivement, de Salvestro de Medici, parce que ça compromet les Médicis pendant 50 ans. Littéralement, de toute façon, ils s'exilent, ils sortent de Florence, mais quand ils reviennent en triomphant, et il faut comprendre, c'est ça la bizarrerie, qu'il y a une mémoire longue de l'événement qui fait qu'au XVe siècle encore, on considère les Médicis comme des populaires, parce qu'en 1378, ils ont pris le parti des Tiompi. Et c'est ce que Machiavel explique admirablement bien dans l'histoire de Florence, dans son livre « Histoire de Florence » qu'il écrit en 1520, où précisément il l'écrit pour les Médicis. Il n'aime pas la plèbe. Il considère effectivement que le tumulte des Tiompi est une catastrophe. Lui, c'est un républicain, et il voit que le tumulte des Tiompi, c'est un mois d'occupation du pouvoir par Michele di Lando, et 30 et 40 ans de répression effrayante. Donc il ne peut pas considérer, lui, le républicain, lui, plutôt quand même favorable à un régime idée popolo, d'un régime du peuple, il ne peut pas quand même considérer que c'est une victoire. C'est ce qu'il appelle un mauvais tumulte. Il y a les bons tumultes et les mauvais tumultes. Les bons tumultes, ce n'est pas forcément une révolte qui réussit. Toutes les révoltes échouent. Mais c'est que son échec ne signe pas une régression sociale aussi effrayante. Donc il est très critique dans son histoire de Florence vis-à-vis des Tiompi. Mais malgré tout, il a cet extraordinaire passage où il imagine quelle serait, et il l'imagine véritablement, parce que là, pour le coup, ce n'est pas du tout une source, c'est une fiction, quelle serait, au fond, le discours de celui qu'il appelle le plébéien. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans l'histoire de Florence, eh bien, il donne la parole au Ciompi, il donne la parole à ce plébéien, il dit comment les hommes de la plèbe ont pu être échauffés, être encouragés par cet homme qui s'adresse au peuple et qui dit ceci. Ne vous laissez pas effrayer par cette ancienneté du sang dont il se targue. Il parle évidemment des nobles. Car tous les hommes ayant eu une même origine sont également anciens et la nature nous a tous faits sur un même modèle. Déshabillés et nus, vous seriez tous semblables. Revêtons leurs habits, qu'ils mettent les nôtres, nous paraîtrons sans aucun doute nobles et eux, gens du commun. Alors, c'est assez extraordinaire parce que c'est là, pour le coup, proprement, un geste, un discours révolutionnaire, proprement révolutionnaire, qui ne se contente pas de brûler et de piller, mais d'échanger les positions. Qu'ils mettent leurs habits, on mettra les leurs. Machiavel n'est pas favorable à cette option, mais il nous l'a fait entendre. Il nous l'a fait entendre. 150 ans plus tard, il nous l'a fait entendre. Et c'est ça aussi, d'une certaine manière, la puissance de la révolte. Elle ne résulte pas seulement dans sa portée immédiate. Elle est toujours catastrophique. Simone Veil le dit aussi. Elle résulte dans sa puissance de retournement, de dévoilement et d'expression. Ces paroles-là ont été dites, elles ont été entendues, elles ont été consignées, elles nous sont transmises. Et il y a effectivement chez Machiavel cette idée que, au fond, qui est le moment très fort de l'histoire des histoires florentines, que cette prise de parole, et je prends à dessein cette expression qu'a utilisée Michel de Certeau en 1968, on prend la parole comme on a pris la Bastille. Cette prise de parole, elle crée au fond de l'irrémédiable, parce que quelle que soit au fond la dureté de la répression, quelle que soit la portée de la révolte, quel que soit d'une certaine manière le caractère désespérant de la domination qui fait, je l'ai dit au début, qu'au fond les dominés intègrent les mécanismes de la domination, ces paroles-là ont été dites, d'autres l'ont entendue, un troisième la transmet et nous pouvons à nouveau l'entendre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie et évidemment, je réponds à toutes vos questions, critiques, remarques. Aussi, je pense qu'il y en a un là. Je peux.
Merci beaucoup, monsieur. En plus, vous êtes professeur au Collège de France, donc c'est vraiment du très haut niveau. Alors, les Ciompi. Vous avez dit qu'en réalité, il y a eu des révoltes en Angleterre et dans d'autres pays. Mais pourquoi vous nous donnez l'exemple des Ciompi ? Est-ce que si on avait pris l'exemple de l'Angleterre, ça serait pareil ou les Ciompi ont quelque chose de bien particulier ? Parce que, vous voyez, vous comprenez ma question ?
Oui.
Parce qu'il y a une révolte en Angleterre et d'autres, mais les Ciompi, il y a eu quelque chose de particulier. Merci, monsieur.
Les Ciompi ont... les Ciompi s'inscrivent dans la même logique et dans la même chronologie, surtout, puisque, évidemment, ce que je j'ai pu dire très précisément, parce que justement les archives florentines sont exceptionnellement précises et documentées sur la conjoncture économique de, des années 1378-1380, vaut partout. Vaut en Angleterre, vaut en France, vaut en Espagne et en Catalogne. C'est-à-dire, c'est effectivement un moment de retournement de la conjoncture, une conjoncture effectivement qui a tendance plutôt à favoriser relativement les salariés survivants d'après la peste noire. Donc on est effectivement à ce moment-là. Florence et ses 50 000 habitants, et sur ces 50 000 habitants, on estime effectivement que 12 000 vivent de la manufacture lainière, est dans un système industriel qui est quand même unique en Europe. Voilà. Donc la révolte des maillotins, par exemple, dont je parlais en France, c'est encore une révolte des métiers. La révolte des travailleurs, c'est encore une révolte des paysans type Jacquerie. La révolte de Barcelone, c'est d'une certaine manière une révolte des corporations. Donc partout, on est d'une certaine manière dans la même conjoncture, mais pas dans la même structure sociale. Ce que j'ai essayé de suggérer trop rapidement, je m'en excuse, c'est effectivement que Florence est la pointe avancée en fait de l'industrialisation de l'économie urbaine. Donc ça, c'est spécifique. Je vous en prie. Ça marche, quoi.
Sait-on combien il y a eu de morts pendant et après, pendant la répression?
Alors, il est très difficile de répondre précisément. En tout cas, entre 2 et 7 000. C'est-à-dire beaucoup. C'est-à-dire tous les leaders, tous les leaders Ciampi, tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu être convaincus d'avoir participé à la révolte, ont été exécutés. Et tous ceux qui, de près ou de loin, parmi classe dirigeante, à commencer par les Médicis, ont été convaincus ou soupçonnés d'être compromis par la révolte, sont écartés, bannis, leurs biens confisqués, etc. Voilà. En tout cas, exclus du jeu politique. C'est pour ça que je dis que la répression, elle est terrible, et surtout, elle est durable. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement oligarchique des Albizzi, c'est un des gouvernements qui est le plus solidement campé sur ses positions et le plus... le plus durable dans le système des pouvoirs.
Oui, bonsoir. Vous avez dit dans votre conclusion une phrase qui m'a un peu étonné, mais vous avez sans doute raison. Vous avez dit « toutes les révoltes échouent ».
Pardon, j'ai pas entendu.
« Toutes les révoltes échouent », vous avez dit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part d'autres exemples qui pourraient être, illustrer le contraire? Non, j'étais étonné par cette phrase, excusez-moi.
Mais c'est une révolution. C'est une révolution. Là, je parle des révoltes au sens, révolte, commotion, tumulte, c'est-à-dire, je suis incurablement médiéviste, c'est-à-dire que il n'y a pas au Moyen-Âge, avant la Révolution, quand je dis qu'elle échoue, c'est-à-dire que la situation postérieure est la même que la situation antérieure ou mieux, le plus souvent elle est aggravée, elle est pire, et ça n'a pas produit. Non seulement de changement de pouvoir, mais même de rééquilibrer le pouvoir. C'est-à-dire que les Ciampi se soulèvent pour en fait participer à l'exercice du pouvoir, vive les arts mineurs, et alors que ça fait à peu près 30 ans que les arts mineurs participent à l'exercice du pouvoir et ils en veulent un peu plus, on en prend pour 30 ans de gouvernement d'art majeur. Donc c'est vraiment une dégringolade. Quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Je précise, échoue à changer radicalement l'exercice du pouvoir, parce que sinon c'est une révolution. Ben, évidemment, c'est très schématique. Il n'y a pas de révolution au Moyen-Âge.
Bonsoir. Est-ce qu'on sait de quelle personne est constituée l'armée de répression qui a
mis fin ? Oui, c'est la milice, en fait, assez... Alors, on est aussi dans un contexte de guerre. Donc vous avez vu, à un moment, il y a des soldats flamands qui arrivent, parce que... Hein, c'est la milice communale, et puis c'est surtout les cavaliers. C'est-à-dire que on se fait une fausse idée de la classe dirigeante de l'Italie communale. On pense que ce sont tous des marchands, mais pas du tout. Il y a parmi, disons, la population urbaine, il y a entre 8 et 10 % de ce qu'on appelle les cavaliers eri, c'est-à-dire ceux qui combattent à cheval. Ce ne sont pas des chevaliers à proprement parler, mais ils combattent à cheval et combattant à cheval, ils expriment leur prééminence sociale. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai eu tort de ne pas le développer, mais vous m'en donnez l'occasion et je vous en remercie. À un moment, Salvestro de Medici est adoubé chevalier du Popolo Minuto. Donc ça veut dire qu'en fait, on prend le symbole de la domination sociale et on le retourne. On se crée des propres chevaliers. Et donc, il y a dans les villes italiennes, et en particulier à Florence, une aristocratie combattante. Et ils font partie, effectivement, de ce qu'on appelle la militia, c'est-à-dire les milites, les chevaliers. Et donc, le jeu politique dans une ville italienne, il est entre la militia, c'est-à-dire des chevaliers, des nobles qui combattent à cheval, qui ont des domaines dans le comtado, dans la campagne, et le popolo. Le popolo, c'est tous ceux qui ne sont pas nobles et qui ne combattent pas à cheval, mais ils peuvent être riches, très riches. C'est pour ça qu'il y a le popolo grasso et le popolo minuto, le popolo gras et le popolo, le petit peuple. Et puis, encore plus bas que le popolo minuto. Bon, c'est ceux qu'on appelle dans les registres fiscaux les nihil, les rien, ceux qui ne sont rien. D'ailleurs, le mec de qui vient faire le cadastro ouvre toutes les portes et dit là, qui est-ce qu'il y a ? Bon, ok, très bien, qu'est-ce que vous avez ? Rien. Donc il marque nihil, rien. Rien à... Pas de fortune, pas de rien. Bon. Donc, c'est très important de considérer effectivement qu'on est dans une structure sociale où, contrairement à ce à quoi on a l'habitude, par exemple dans le Royaume de France, où les chevaliers vivent à la campagne et les bourgeois sont en ville, là, on est dans une structure sociale où les chevaliers sont dans la ville. C'est pour ça qu'il y a des tournois en ville, c'est pour ça qu'il y a une culture courtoise, bon voilà, et qu'en fait une ville italienne, c'est pas une ville de marchands, c'est aussi une ville de chevaliers, très important. C'est pour ça que la répression, elle est très facile. Elle est très facile, parce qu'effectivement, la classe dirigeante, elle est là, elle combat à cheval. Donc de toute façon... le popolo minuto, à partir du moment où il prend le pouvoir, où il prend les lieux du pouvoir, en fait, militairement, il n'a aucune chance. Il peut avoir une chance dans la phase 1, c'est-à-dire où, en fait, ils représentent une alliance avec une partie de la classe dirigeante, Salvestro de Medici. Mais à partir du moment où, dans la phase 2, il y a une radicalisation et que Salvestro de Medici est éliminé et qu'on a un Michele Di Lando qui ne représente plus que lui-même, alors là, effectivement, ils sont communément vulnérables.
Pardonnez-moi, j'ai encore une question.
Mais je vous en prie.
Vous avez dit une phrase très intéressante à un moment. Vous avez dit grosso modo, si je m'habille en noble, on me prendra pour un noble. Si je m'habille grosso modo en ouvrier, je suis une ouvrière. C'est Machiavel ou c'est les Ciompi qui ont dit ça?
C'est Machiavel qui parle au nom des Ciompi. C'est-à-dire
donc
que...
c'est à l'époque des Ciompi.
Oui, alors c'est à l'époque des Ciompi, mais c'est aussi à l'époque de justement de ce à quoi vous me demandiez de comparer les Ciompi, c'est-à-dire par exemple la révolte des travailleurs en Angleterre. C'est-à-dire que cette idée que tous les hommes sont égaux et que si on les met tout nus, c'est-à-dire que si justement... Ouais, mais c'est très intéressant, mais d'une certaine manière, c'est tout le monde le sait. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas absolument la première fois qu'on dit ça. Et les Anglais, effectivement, révoltés en 1380, ils ont effectivement un leader qui s'appelle Wight Tyler, et Wight Tyler, qui est un des premiers niveleurs, comme on dit, il a ce slogan qui prend dans la Bible, c'est-à-dire quand Adam bêchait, qui était gentilhomme. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, il n'y a pas de gentilhomme, il n'y a pas de... Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est pas tant, me semble-t-il, hein, dans ce discours qui est un grand moment de bravoure. Par exemple, dans toute la littérature révolutionnaire, on prend le discours du Ciompi, qui est un discours inventé hein, par Machiavel, mais où il fait parler, au fond, ce que les sources disent, mais en le rassemblant dans, je dirais, une prise de parole fictive. Eh bien, c'est par exemple, dans l'Italie des années 1970, l'Italie des luttes sociales, l'Italie des années de plomb, eh bien, le discours du Ciompi écrit par Machiavel, il était très régulièrement distribué comme un tract dans les usines, parce que c'est un texte mobilisateur. Et puis, c'est aussi un texte qui, effectivement, décrit la possibilité pour... pour les révoltés d'aller à l'encontre de leur propre peur. Voilà. Là encore, c'est assez banal. C'est intéressant, mais c'est courant directement que plus que banal. C'est que si vous lisez les chroniqueurs médiévaux qui parlent justement de la révolte au XIVe siècle, ils se posent la question de savoir quand naissent les révoltes. Alors, ils ne répondent pas comme Ernest Labrousse. Ils disent une révolte naît quand la colère est plus forte que la peur. Quand la colère est plus forte que la peur. C'est-à-dire quand on arrive, effectivement, quand le sentiment d'indignation est plus fort que la crainte de la répression. Et je vous lis, puisque ça vous intéresse, le début du discours du Ciompi reconstitué par Machiavel. Si nous devions en ce moment délibérer pour savoir s'il faut prendre les armes, brûler et piller les maisons des citoyens, dépouiller l'Église, je serais de ceux qui jugeraient que cela mérite réflexion. Mais peut-être serais-je d'avis de préférer une pauvreté tranquille à un gain périlleux. Mais puisque les armes sont prises et qu'il y a déjà beaucoup de mal de fait, il me semble que nous devons chercher par quels moyens conserver les armes et parer aux dangers où nous mettent les délits commis par vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, si vous me demandez mon avis, on n'aurait pas dû faire ça. Mais maintenant qu'on l'a fait, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, c'est cette logique de la foule qui amène, et c'est ça qui est extrêmement intéressant chez Machiavel, qui amène en fait à la radicalisation. Et cette radicalisation, c'est qu'à partir du moment où effectivement on a réussi à vaincre la peur, et qu'est-ce qui peut au fond nous amener à vaincre la peur, sinon une colère qui est plus puissante que la peur, alors il faut aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ça veut dire, on ne va pas se contenter effectivement de piller, de brûler, on ne va pas annuler l'inégalité de richesse, on va se poser la question de l'inversion des places. Voilà, c'est-à-dire cette phrase qui vous intéresse, c'est-à-dire effectivement, si ne vous laissez pas impressionner par la domination sociale, il parle de du sang, mais on a le même, nu, on est pareil, et ne soyez bien certains que vêtus comme ils sont vêtus, vous seriez les mêmes qu'eux. Ce qui n'est pas certain. Ce qui n'est pas certain du tout, la preuve, c'est que lorsque... c'est pour ça que j'ai lu d'abord ce texte qui est... Non, ça je crois pas, mais en revanche, je crois pas. Je suis pas sûr, mais justement, c'est pour ça que j'ai commencé par un vrai texte et j'ai terminé par un texte reconstitué. Alors le texte reconstitué, il nous fait plaisir. On trouve que il est, mais le vrai texte, c'est le seul qu'on ait. C'est pas un Tchompi. C'est quelqu'un qui est proche d'eux, qui ne les condamne pas, qui ne les insulte pas, ce qui est déjà beaucoup, mais qui ne va pas jusqu'à en dire du bien. Et qui, la manière dont il en parle, montre bien qu'en fait, il intègre une bonne partie des critiques qu'on leur fait. Voilà, c'est ce que je disais. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.